Bonsoir. Situation carcérale en République démocratique du Congo. Des cas de décès des détenus par malnutrition sont enregistrés dans plusieurs prisons à travers le pays. Le dernier cas en date est celui de la mort de 3 détenus à la prison centrale de Mbujimayi. Ceci porte à 15 le nombre de détenus décédés depuis le début de l'année dans cette maison carcérale. Comment analyser cette situation? C'est la question du débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec, et c'est un plaisir de parler ce soir qu'avec les avocats pour ce sujet éminemment de droits de l'homme. Une sélection, bien sûr, qui s'impose d'elle-même. Alors, ça sera avec Placide Mukendi, ministre provincial de la justice du gouvernement provincial du Kassai Oriental. Placide Mukendi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Onésime Ndoudi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes avec nous en studio à Radio Okapi. Vous êtes président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers, mais également Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, président de l'ONG Avocats sans frontières. Il est aussi conseil près la Cour pénale internationale CPI et le tribunal pour le Liban. Richard Bondo, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans Dialogue entre Congolais.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Situation carcérale en République démocratique du Congo, des cas de décès des prisonniers par malnutrition sont enregistrés dans plusieurs prisons à travers le pays. Le dernier cas en date est celui de la mort de 3 détenus à la prison centrale de Mbujimayi. Ceci porte à 15 le nombre de détenus décédés depuis le début de l'année dans cette maison carcérale. Alain Irung tente ici le rappel d'un certain nombre de cas de détenus morts en prison en RDC et les circonstances de ces décès.
Au Nord Kivu, le dernier cas de décès dans la prison centrale de Kangwai de Beni a été signalé le lundi 19 janvier dernier. Selon les sources pénitentiaires, cela porte à 6 le nombre des détenus décédés depuis novembre dernier dans cette prison suite à la malnutrition sévère, faute de nourriture depuis quelques mois. D'après la même source, avec une capacité d'accueil de 150 personnes, la prison centrale de Kangwai, qui dispose de 4 cellules, a actuellement une population carcérale estimée à 750 personnes. Parmi ces détenus, au moins 150 souffrent de malnutrition sévère, faute de nourriture et d'eau dans cette maison carcérale. Encore en janvier dernier, à la prison centrale de Bunia en Ituri, au total 9 détenus sont morts en l'espace de 2 semaines à la suite des mauvaises conditions de détention, a expliqué à Radio Okapi le directeur de l'établissement qui déplorait des conditions d'hygiène précaires dans lesquelles vivent ces prisonniers. Il avait signalé notamment l'absence depuis plusieurs semaines d'eau potable au sein de cet établissement pénitentiaire. En début d'année, dans la province du Tanganyika, plusieurs détenus de la prison centrale de Manono souffraient de la malnutrition. Lors d'une visite de routine de la police de la MONUSCO effectuée à la fin de l'année, la plupart des détenus ont affirmé passer entre 10 et 14 jours affamés et dormir dans des conditions déplorables.
Merci Alain Irung. Placide Mukendi, vous êtes ministre provincial de la justice du gouvernement provincial du Kassai Oriental. Nous l'avons dit, ce n'est pas une situation exclusive au Kassai. Mais 15 morts déjà alors que l'année n'est qu'à son troisième mois, sans compter la situation des années précédentes, qui elle aussi est catastrophique. Monsieur le ministre, que se passe-t-il dans les prisons du Kassai?
Merci bien de votre question, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité à cette émission. Je voudrais d'abord apporter un correctif, monsieur le journaliste. Lorsqu'il y a 4 décès en prison, en temps réel, je suis informé et les dossiers relatifs me sont communiqués. Donc, à partir du janvier, à partir du 1er janvier 2018, jusqu'à ce jour, on n'a pas enregistré 15 morts comme diffusé sur les ondes de la radio Okapi. Au contraire, nous avons enregistré 7 cas de décès avec certificat de décès à l'appui. Donc, c'est un peu ça. Il faut reconnaître que notre prison a été construite initialement pour une capacité d'accueil de 150 personnes, comme la plupart des maisons carcérales en RDC. Mais aujourd'hui, avec la montée de la criminalité, nous sommes à plus de 900 passionnés, passionnaires à la prison centrale de Mbujimayi, Alors, cette surpopulation fait en sorte qu'il y a des petits problèmes, mais par rapport à la nourriture, je vous dis qu'il ne se passe pas un jour en prison sans que les prisonniers ne mangent. Mais il faut reconnaître qu'en prison, on ne mange pas comme à la cité par rapport à la diversité d'aliments. Donc, il y a le gouvernement central qui intervient. Lorsqu'il y a les fonds se font attendre, le gouvernement provincial intervient également. Comme vous le savez, la gestion de la prison, c'est une matière concurrente entre le pouvoir central et le gouvernement provincial. Nous avons même pris des dispositions également avec les fournisseurs que nous avons alignés, qui avaient été sélectionnés par le gouvernement central, de manière que lorsque nous sommes en rupture de nourriture, que nos fournisseurs puissent préfinancer l'achat de nourriture, dès que nous avons les fonds, on les paye. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Monsieur... Donc, la surpopulation, je crois que c'est un problème. Le gouvernement provincial est en train d'y travailler. Ce n'est pas une fatalité ou l'hécatombe, comme on l'a dit, mais il y a des petits problèmes que nous sommes en train de gérer. Bien sûr, il se pose aussi un problème de moyens. Il faut les revoir par rapport à la population carcérale. Il faut effectivement des moyens conséquents. Et on y travaille, monsieur le journaliste.
Monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même de soit minimiser la situation, soit la sous-estimer? Tout à l'heure, vous parliez du correctif que vous souhaitiez apporter de 7 morts et pas de 15. Permettez-nous de signaler aussi que nos reporters se sont quand même documentés, mais il est possible que ce soit tombé sur les chiffres, mais 15 ou 7 morts, est-ce que les détenus ont raison de pouvoir mourir en prison, même s'il n'y en a que 7?
Monsieur le journaliste, je ne minimise rien. Donc, en tant que responsable, on ne peut pas se frotter les mains lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a des cas de décès. Ce sont des cas que nous avons déplorés. Mais la réalité, c'est là avec des documents à l'appui. La vérité, c'est là. Je vous dis qu'il y a un problème de surpopulation. Nous avons connu également la tuberculose résistante dans notre prison. Le gouvernement provincial a très vite procédé au transfert de tous les cas avérés de cette tuberculose vers notre hôpital général de référence, où ils sont pris en charge par le gouvernement. C'est autant d'actions que nous sommes en train de mener, sans pour autant minimiser la gestion de la prison. Je vous dis qu'il y a 48 heures, son excellence, monsieur le gouverneur de province, venait de diligenter, de mettre sur pied une commission qui doit aller toucher du doigt toute la réalité de la prison pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui vivent en prison.
Monsieur
Donc, ce n'est pas pour dire que nous sommes en train de minimiser, monsieur le
journaliste.
Mais la réalité, la vérité, c'est là.
Placide Moukendi, nous avons pris aussi le soin de signaler que ce n'était pas un cas exclusif au Kasaï Oriental. Vous avez entendu des cas des deux Kivu, de la province de l'Équateur et de quelques autres endroits de la République démocratique du Congo, y compris ici la capitale Kinshasa. Mais vous avez tout à l'heure signifié que les prisonniers mangeaient quand même. Est-ce que vous pouvez, à titre indicatif, nous dire que mangent exactement les prisonniers du Kasaï Oriental?
Bon, la qualité d'aliments que les prisonniers consomment, c'est la même que ce qui se consomme dans toutes les autres prisons de la République. Nous avons le haricot, d'abord le foufou, à base de maïs. Nous avons le haricot et les légumes qu'ils consomment assez régulièrement. Voilà au moins les trois aliments principaux qu'ils consomment. Et c'est comme ça que ça se fait dans d'autres prisons.
Nous ne sommes pas spécialistes en nutrition, monsieur le ministre, mais quand une personne mange le maïs dans le foufou, plus le maïs encore, en fait, ou encore de la farine dans les haricots, est-ce que ça peut aussi, selon vous, est-ce que ça ne peut pas aussi justifier qu'on parle de malnutrition et que ces personnes puissent décéder?
Je vous ai dit que par rapport à la qualité d'aliments, eu égard à la diversité, donc on ne mange pas en prison comme on mange à la cité. Mais parler d'une malnutrition sévère, c'est un peu exagéré, monsieur le journaliste. Il faut se reconnaître qu'en prison, il y a des gens qui viennent tout en état malade. Et quand ils viennent tout en état malade, il y en a qui se présentent devant les médecins quand la maladie est à un stade déjà avancé. Cela peut occasionner qu'il y ait décès. Donc ce n'est pas seulement à cause de la malnutrition. Mais je crois que nous sommes en train, ce qu'il faut aussi reconnaître que par rapport à la capacité ou à la surpopulation que nos prisons sont en train de connaître, je crois que le budget alloué à cette tâche par le gouvernement, je crois que doit être revu à la hausse. Quand une prison initialement conçue pour 150 personnes en ressort aujourd'hui 900 pour nous parler de la prison d'Ombudsman, 924, je crois qu'il y a il y a quand même un problème. Il faut revoir certaines stratégies. Mais je crois que pour nous, la solution finale, c'est la délocalisation de notre prison qui est en centre-ville. Il faut la délocaliser et puis construire une prison avec une capacité qui correspond aujourd'hui à la population carcérale. Je crois que c'est autant de scénarios que nous pouvons concevoir pour pouvoir trouver solution définitive, ne fût-ce que durable, à la situation des prisonniers actuellement ici chez nous.
Placide Mukendi, là aussi, signalons que si nous faisons cette émission, c'est parce que la situation est récurrente. Année après année, c'est une série interminable de prisonniers qui meurent et que les problèmes que vous signalez là, à savoir la surpopulation des prisons, les problèmes de financement, les problèmes alimentaires, sont exactement année après année les mêmes problèmes brandis. Une commission nationale a été diligentée il y a quelques mois pour pouvoir faire le point et notamment diligenter des propositions de construction de nouvelles prisons et de définition des budgets conséquents pour pouvoir résoudre ces problèmes a été mise en place. Est-ce que nous pouvons savoir, primo, quel budget est généralement utilisé pour la province du Kasaï oriental, par exemple? Et est-ce que cette commission a tiré ses résultats? Et si oui, où en est-on avec l'application?
Bon, je sais que par rapport au volet financier, il y a pour le dernier trimestre de l'année 2017, nous avons reçu 60 millions. Et le trimestre qui avait précédé celui-là, ou le troisième, on avait reçu 25 millions. Je me dis par rapport au nombre actuel que nous avons, je crois que c'est Dieu, c'est mieux qu'il soit réduit à la hausse. Pour revenir au cas de décennie sur la jeunesse, je crois qu'on ne peut pas s'en glorifier ou s'en frotter les mains. On peut prendre un échantillon de la population en liberté, de 1000 personnes, on les observe pendant 3 mois, on verra que sans les souhaiter, on peut voir qu'il y a des cas de décès. Ce n'est pas pour autant dire que ces gens meurent de la malnutrition sévère. Donc la mort, elle est liée à la nature humaine, c'est un phénomène naturel, mais nous faisons tout notre pouvoir de manière que les prisonniers se sentent quand même bénéficier de tous les droits comme nos compatriotes qui sont en liberté. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire.
Onésime Ndoudi, président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers, vous allez probablement, j'imagine, nous dire que vous ne partagez pas du tout les justifications des autorités du Kasaï.
Je le regrette amèrement, la justification du ministre provincial du Kasaï oriental, puisque, vous venez de le dire, c'est chaque année que nous sommes préoccupés par rapport à la situation carcérale en République démocratique du Congo. Le problème de la malnutrition ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis plusieurs années. Nous évoquons le même fait, mais rien ne change. J'ai toujours posé la question au niveau du gouvernement central, quelle est la politique qu'ils mettent en place pour ce qui concerne la gestion des établissements pénitentiaires. Je suis d'accord avec le ministre provincial de la Justice du Kasaï oriental par rapport au budget. Si je ne me trompe, un détenu en 2017 avait droit $1 par jour. Alors, s'il faut faire le petit calcul avec $1 qu'une personne peut manger matin, midi, soir, et même les $1, les différentes étapes que passe cet argent, les $1 n'arrivent pas au chef d'établissement qui gère les détenus, par exemple à la prison centrale de Makala. Dans chaque niveau, on coupe jusqu'à à la dernière minute, il n'y a que des miettes qui tombent. Et quel type de nourriture? C'est là où notre pays a un problème. Aujourd'hui, nous faisons partie de la Commission internationale des droits de l'homme. Mais quelles conditions vivent nos détenus? Vous venez d'évoquer la commission qui était mise en place quelques mois passés par le ministre de la Justice. Les rapports, quels sont les rapports qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont encore, cette commission est encore en cours de travail? Ou bien ils ont déjà achevé? Est-ce qu'ils ont déjà publié les rapports? Non, puisque c'est catastrophique. Mais quelle politique carcérale que on met en place dans notre pays.
Alors, Onésime Ndoudi, vous êtes le président national d'une organisation de défense des prisonniers. On lit à travers cette tâche que vous avez que vous suivez en principe l'évolution des fonctionnements de ce type d'établissement à votre niveau. Jusqu'ici, puisque vous reconnaissez que la situation ne fait que revenir après année, qu'est-ce que vous avez proposé ou qu'aimeriez-vous proposer concrètement sur des aspects comme la nourriture à manger, comme la population carcérale à déterminer pour les prisons? Concrètement, que proposerez-vous à ce stade?
Nous avons à maintes reprises proposé des voies de sortie. Par exemple, il faut que chaque province ait son budget pour la gestion des établissements provinciaux de sa province, puisque nous sommes un pays où il y a la décentralisation. Les budgets pour la gestion des établissements pénitentiaires ne peuvent pas toujours revenir au gouvernement central. Il faut qu'on décentralise les responsabilités. Et en plus, on doit amener une réforme dans notre code pénal et dans notre l'ordonnance 344, puisque aujourd'hui, notre pays a ratifié des conventions sur les règles minimales de la détention des Nations Unies, mais nous utilisons l'ordonnance 344 qui date depuis 1965. Donc, qui ne correspond même pas avec l'évolution d'aujourd'hui. Sur le plan nutritionnel, on est en train de vous dire que les prisonniers mangent. Nous oublions que les personnels carcérales sont privés seulement de la liberté. Ils ont les droits de tout ce qui reste. Ils ont droit à la nourriture. Et l'État congolais qui les place en détention a l'obligation de les nourrir, conformément même à cette ordonnance 344 de 1965. Ça programme combien un détenu doit manger 3 fois par jour. Mais est-ce que nous avons aussi cette difficulté d'application des textes dans notre pays? C'est le manque d'application des textes qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons sont hors les textes. C'est comme ça que nous arrivons à ces résultats-là.
Alors, vous avez entendu le ministre provincial tout à l'heure indiquer que le budget qui leur arrive probablement ne leur permet pas de pouvoir organiser les prisons comme vous êtes en train de le conseiller là. Mais est-ce que vous pensez que le peu d'argent qui est déjà disponible là est bien utilisé ou vous pensez que une bonne partie se volatilise?
Dire que il a raison de dire que les budgets qui leur arrivent, il faut qu'on les voie à la hausse, c'est vrai. Mais les peu qui arrivent,
est-ce qu'il se volatilise ou pas?
C'est peut-être 30% qui est mis à la disposition des détenus. Et les 70%, on ne sait pas la destination.
Donc avec le peu qui arrive déjà, si on l'utilisait intégralement, on pourrait faire quelque chose.
Si, si. Mais malheureusement, tout ce qui arrive, les peu qui arrivent, ne sont pas utilisés pour les besoins des prisonniers.
Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et président de l'ONG Avocats sans frontières, vous êtes aussi conseil près de la Cour pénale internationale CPI et le tribunal pour le Liban. Richard Bondo, pourquoi ces décès à répétition en République démocratique du Congo dus presque exclusivement à la famine?
Merci beaucoup de la question. Mais je vous réponds immédiatement que, en suivant le plaidoyer de Onésime et surtout le balbutiement du ministre provincial de la justice, vous comprenez que le mal est abyssal, le mal est très profond. Le mal, il faut l'analyser et en amont et en aval. En amont, l'État qui est protecteur de ces populations ne sait pas subvenir aux besoins des prisonniers. Mais les responsables du parquet, parce que qui envoie les gens en prison? C'est le parquet. Ils ont monnayé ce qu'ils appellent MAP et ont même inventé un verbe mapper. MAP qui veut simplement dire, en abrégé, mandat d'arrêt provisoire. Même pour un contrat civil, vous n'avez pas payé votre loyer, le bailleur se plaint parce que le bailleur ne connaît pas la procédure, il se plaint au parquet, j'ai un locataire qui ne paye pas régulièrement mon loyer. On invite le locataire, premier réflexe du magistrat, MAP. Et ils ont même, ils disent eux, MAPE. Le verbe est là, une invention de la logomachie congolaise. Et puis, ces gens peuvent passer des mois et des mois, la population carcérale augmente à cause d'abord de ce syndrome MAP. Deuxièmement, Onésime vous a parlé d'un dollar par prisonnier. Mais ce dollar se dispute déjà en amont parce que toutes les autorités jusqu'aux gardiens de la prison se disputent le 1 dollar. Alors, les cintres qui restent pour nourrir, par exemple, la prison de Mujima à peu près 1000 personnes. Pensionnaires. Kinshasa, on est à peu près dans les 5-6 000. Comment peut-on nourrir ces prisonniers? C'est pour cela qu'il faut, comme l'a dit Onésime, outre l'ordonnance de 1965, essayer de se familiariser avec les règles minima des Nations Unies sur la détention. Parce que nous jugeons, chaque fois que je vais dans les tribunaux militaires, c'est marqué en gras, nous jugeons nos semblables. Ce sont nos semblables qui sont détenus. Les semblables du ministre de la Justice, semblables des avocats, semblables des professeurs d'université, de tout le monde, des journalistes, de tout le monde. C'est des humains. Comment les prisonniers congolais peuvent-ils connaître ce que Spinoza appelle la joie de vivre? Si, en prison, ils sont privés de nourriture et puis de soins de santé, quand ils tombent malades, qui les traite? Et dans quelles conditions sont-ils traités? Lorsque vous visitez nos prisons, le dispensaire qui est là, d'abord, il est insalubre. Comment voulez-vous que les gens aillent se faire soigner là où ils attrapent plusieurs microbes pour aggraver leur état de santé? La malnutrition, c'est un des aspects. Mais il y a le détournement de ce 1 dollar par prisonnier par tous ceux qui se trouvent sur la chaîne.
Alors, Richard Bondo, vous semblez dire que, en réalité, la mort dans les prisons n'est que la conclusion d'un processus de mégestion, de désorganisation qui commence avec la justice elle-même. Alors, vous avez établi un tableau encore plus catastrophique que ce qu'on avait présenté jusqu'ici. Mais est-ce que vous pouvez, un peu un spécialiste justement des questions de droit, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, année après année, connaissant les problèmes qu'il y a, les conditions de vie des prisonniers ne s'améliorent jamais?
ça ne peut pas s'améliorer parce que il y a un problème. Lorsque les ONG comme celle d'Onésime, comme Avocats sans frontières, tous les défenseurs des droits de l'homme, lorsqu'ils dénoncent, est-ce qu'on, au lieu d'écouter les défenseurs des droits de l'homme, certains d'entre nous sont arrêtés et envoyés dans les mêmes lieux-là. À ce moment-là, la boucle de rétraction où les administrés font canaliser leurs aspirations vers les décideurs est rompue. Parce que lorsque nous voulons faire canaliser les aspirations des prisonniers vers les décideurs nous renvoient paître avec menace de nous arrêter nous-mêmes les défenseurs des droits de l'homme.
Alors, Richard Bendo...
Vous les journalistes, la même chose. On vous arrête parce que vous avez dénoncé autant de décès. Mais vous avez suivi ce qui est lamentable. Le ministre provincial là, de Kassai-Oriental, qu'est-ce qu'il vous dit? Au lieu de 15 morts, il y a eu 7. Donc 7 pour lui, c'est un plaisir que les gens meurent. Ils trouvent, ils ont une porte de sortie parce que au lieu de 15, c'est 7. Mais c'est déjà grave.
Alors,
dire que c'est un confrère, c'est un avocat. Autant démissionner parce que vous êtes incapable d'apporter des solutions dans votre secteur.
Moi je dis
que le problème c'est que si, avec le système de détournement de ce qui est destiné aux prisonniers, et que l'impunité demeure la règle, je crois que nous avons encore de beaux jours pour la malnutrition qui y est de plus en plus une épisodique dans nos prisons.
Richard Bendo, merci pour votre intervention. Nous revenons à vous dans un instant. D'abord, cette question adressée à Placide Mukendi.
Docteur Pasikena, à partir de Kananga au Kassai central, cette situation de décès par malnutrition dans nos maisons carcérales doit interpeller le gouvernement congolais qui ne se préoccupe pas des conditions de vie des prisonniers. J'aimerais ici dresser un tableau macabre de conditions de vie inhumaines, d'absence d'eau potable, de promiscuité, d'absence de médicaments, d'absence de nourriture que traversent nos concitoyens qui vivent dans ces corbillards. À mon humble avis, il me semble que le gouvernement congolais est déterminé à exterminer sa population, car tous ne pouvons pas mourir par balle lors de manifestations pacifiques. Certains devront être tués par la faim dans nos prisons. Or, les prisonniers sont des humains et ils ont droit à la vie. Par contre, à voir ce qui se passe dans nos prisons, je pense qu'il s'agit là d'une grave violation des droits de l'homme, car tout semble être mis en place pour achever ces détenus. Or, la vie de l'homme est sacrée.
Ministre provincial de la Justice du gouvernement provincial du Kassai-Oriental, Placide Mukendi, Passy, vous venez de l'entendre, ne pose même plus la question. Il affirme carrément que cette recrudescence des morts dans les prisons de RDC sont une planification de mise à mort.
Non, je crois que c'est grave comme affirmation. C'est une affirmation à l'extrême que je considère comme gratuite. Il n'y a pas un gouvernement responsable. Ne peut pas planifier la mise à mort de sa population. Ça, c'est très grave et même gratuit comme affirmation. Je crois que notre ami doit mettre un peu d'eau dans son bain pour voir les choses dans leur vraie face. Pour revenir à cette question de la gestion des fonds, je crois que Maître Bendo et notre ami qui est au studio doivent faire un minimum d'efforts pour faire les choses en professionnel au lieu de se contenter des affirmations qui frisent des imputations. Actuellement, avec le système de bancarisation, les fonds destinés à la nourriture des prisonniers sont tracés, traçables. Maître Bendo n'a qu'à aller à la Banque centrale, il verra quels sont les chiffres. Les chiffres existent à des dates bien précises. Il n'a qu'à venir en mouvement pour nous parler du Kassai-Oriental, vérifier à la banque. Ici, nous avons un compte à la banque Tembe, donc l'argent vient de Kinshasa, des banques en banque. Et ce compte est géré par le chef de la division provinciale de la justice du Kassai-Oriental, conjointement avec le directeur de prison ou le gardien de prison. Et ils tiennent une comptabilité qui est contrôlée et par le gouvernement central, par le gouvernement provincial. Ils font leur rapport. Je vous ai dit qu'il y a une commission que son excellence, monsieur le gouverneur, venait de diligenter pour vérifier certaines situations. C'est pour vous dire qu'ils sont suivis. Ils présentent un tableau comme si on était dans la jungle où les gens se contente de bouffer l'argent destiné à nos compatriotes congolais. qui sont en prison, qui sont en fait en rééducation en prison. Je crois qu'un gouvernement responsable, ça ne peut pas se faire comme ça. Nous devrions, avant de tenir certaines affirmations, avoir des chiffres, mener ne fût-ce qu'une étude de terrain avant de tenir certains propos. À propos de la santé, je voulais aussi rappeler, je crois que c'est le même système dans toutes les prisons de la République. La prison centrale du Kassai Oriental a un centre de santé qui est dans une zone de santé contrôlée par le médecin chef de zone et gérée par le chef de la division provinciale de la santé. Et ce centre de santé, c'est un centre de l'État qui est fourni, qui est pourvu en médicaments et équipements nécessaires. Et ce centre est géré par 7 médecins au total. 7 médecins. Je crois que c'est une organisation. Avant de tenir ton propos, une petite étude de terrain s'avère indispensable pour avoir la bonne information. C'est comme ça que les choses se présentent. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle d'essayer de dire ne fût-ce que la vérité à notre population, plutôt que de faire des propositions, des suppositions qui ne cadrent en rien avec la réalité de terrain.
Monsieur le ministre, bien des recommandations sont allées dans le même sens, notamment les états généraux de la situation pénitentiaire en République démocratique du Congo ont eu à recommander à l'époque le déploiement rapide des prisons, vu que c'est un des problèmes gravissimes de nos prisons aujourd'hui, et l'accélération des procédures judiciaires. Qu'est-ce qui empêche d'en arriver là, puisque c'est une des recommandations importantes pour résoudre le problème?
Chez nous, on le fait déjà. Je vous ai dit, pourquoi ça ne l'est pas dit, dans le cadre du désengorgement de la prison, il y a eu avant-hier, l'autorité provinciale avait eu une réunion à laquelle a pris part le procureur général et la cour d'appel de Mujimaï, où une commission venait d'être de magistrats, des hauts magistrats venaient d'être mis sur pied par le procureur général pour vérifier cas par cas, pour voir dans quelle mesure on peut désengorger la prison par la remise en liberté des gens qui sont arrêtés pour des faits bénins. Je ne reviens pas sur l'opportunité ou la compétence de mettre les gens en prison. Ça, c'est la compétence des magistrats. Ça, c'est pas notre problème. Nous, en tant que gouvernement, nous nous limitons à la gestion des conditions dans lesquelles vivent nos compatriotes. Donc, il y a autant d'actions que nous sommes en train de mener pour, en attendant la solution définitive qui consiste à délocaliser et puis à agrandir notre prison. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons désengorger notre prison avec le système de mise en liberté des gens qui sont arrêtés pour des faits bénins et d'autres qui ont déjà purgé leur peine. Nous sommes aussi en train de penser, nous avons une maison carcérale dans le territoire de Tshilenge, voir dans quelle mesure nous pouvons amener une bonne partie des prisonniers là-bas. Tout ça, ce sont des dispositifs qui ont été pris pour soulager la souffrance de nos compatriotes qui sont en rééducation dans la prison centrale.
Onésime Doudi, vous avez probablement un élément à ajouter, mais avant qu'on arrive là, nous voulons vous proposer d'écouter plutôt ce commentaire d'un de nos auditeurs.
Mav Kisambika, je vous appelle à partir de Kananga dans la province de Kassai Central. Au regard de ces cas de décès qui sont régulièrement signalés dans des prisons à travers le pays, il y a quoi à se poser de multiples questions? Malheureusement, les autorités restent insensibles face à ces situations inhumaines que connaissent les détenus. Comme tout le monde le sait, faire la prison en RDC ressemble sans nul doute d'une vie de l'enfer sur la terre. Cela étant, à quoi doit-on s'attendre à l'amélioration des conditions de détenus dans des prisons au Congo pendant que la justice congolaise elle-même reste jusqu'ici un appareil roulé et téléguidé par les personnes ou individus qui se disent être des intouchables? En effet, nous parlerons de l'amélioration de ces conditions que si les autorités prennent conscience en toute liberté humaine.
Président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers, Onésime Doudi, est-ce que c'est notamment tous les défis que la mise en place d'une bonne justice impose en RDC qui sacrifie le bien-être des prisonniers ou pas?
Je souscris à cette logique que notre appareil judiciaire a un problème sérieux. Ceux qui gèrent la justice, qui est censée être indépendante, cette justice n'est plus indépendante. Mais ils oublient que les prisonniers d'aujourd'hui seront des hommes libres demain, et les hommes libres d'aujourd'hui, et surtout ceux qui nous gèrent, seront des prisonniers demain. Puisque la manière dont est gérée la justice en République démocratique du Congo, elle est, je ne sais plus les termes que je peux utiliser, on rend des jugements, des parodies de justice, une justice géométrie variable. Et ce qui se trouve en prison, il y a 70% des innocents et 30% des coupables.
Là-dessus, le ministre provincial du Kassai Oriental dit que c'est la justice qui est responsable de cet état des choses.
Mais il est ministre de la justice. Il avoue qu'il est responsable de cette situation. Mais, puisqu'il est ministre de la justice.
Mais vous savez qu'il y a séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire.
Là, c'est dans les textes, pas dans la pratique. Dans la pratique, c'est l'exécutif qui dirige le judiciaire. Puisque nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Ce qui devait être en prison aujourd'hui sont ceux qu'on appelle aujourd'hui presos, qui vous roulent carrosse sans en être inquiété. Mais ceux qui sont innocents, ce sont ceux qui se trouvent, qui croupissent en prison aujourd'hui et qui meurent de faim en prison. Nous devons, faut que les systèmes en place changent.
Concrètement, en faisant quoi au quotidien?
Les ministres, les procureurs généraux de la République doivent avoir l'œil regardant sur ce que Maître Bondo a évoqué ici, les phénomènes MAP. Même pour des faits bénins, j'ai fait un plaidoyer d'un détenu qui a volé 10 briques.
Pour les auditeurs qui ne nous ont pas suivis tout à l'heure, MAP, oui, c'est tout simplement
mandat d'arrêt provisoire. Ouais. Qui est transformé en verbe en République démocratique du Congo, MAPé.
Vous êtes en train de dire qu'on utilise un peu trop
oui,
cette pratique.
Cela est devenu un instrument pour pouvoir rançonner les petits peuples.
Et pour éviter que le MAP se popularise, on devrait faire quoi?
La caution en République démocratique du Congo est remboursable. On vous place sous MAP et pour obtenir la liberté provisoire, vous devez payer une caution. Mais quand il y a ce qui sort et qu'on suit les dossiers, on rend les jugements, vous vous rendrez compte que la personne qu'on a mappée a été acquittée. Mais la caution qu'il a donnée ne lui a jamais été remboursée. Cela est devenu l'argent dans les poches des magistrats. Et c'est ce qui fait le surpeuplement carcéral. Le procureur général de la République, à la place de pourchasser les opposants, il doit faire ce travail de contrôler jour pour jour la gestion des dossiers gérés par les magistrats du parquet. En dehors de ça, les ministres de la justice, dans ses prérogatives, la loi lui donne les prérogatives de mettre en place une équipe des inspecteurs qui veille sur la validité de la procédure de la détention. Et même le directeur de prison, chef d'établissement, la loi, cette ordonnance 344 leur donne les pouvoirs. S'ils voient qu'un détenu, la procédure de la détention est violée, ils peuvent les libérer. Est-ce qu'ils le font? C'est comme ça, j'adhère à cet intervenant qui a dit que les pouvoirs en place ont planifié la mort de notre concitoyen dans les prisons.
Alors, Richard Bondo, nous vous invitons à votre tour à réagir aux commentaires de cet auditeur.
Maître Tonto Albert Tambola, depuis l'Issala, il est connu depuis un soleil qui est les maisons carcérales. De la rééducation pour les effets des faits répréhensibles par la législation congolaise. Nous sommes avec un enfant qui est les maisons carcérales, formées en un mouroir, en RDC pour des multiples raisons, notamment la malnutrition, mauvaise installation sanitaire, conditions hygiéniques dégradables et autres. En fait, cette situation nous pousse à conclure que la vie humaine n'est pas sacrée aux yeux des autorités congolaises, car elle n'était pas le cas. Elles allaient prendre des dispositions forcément nécessaires afin de bien obtenir des Denis Kissami et Iya n'ont jugé voir les innocents.
La ligne de communication n'était pas très bonne du tout, Richard Bondo. Nous allons quand même vous permettre d'écouter le message de l'auditeur en le lisant pour vous. Il est connu de plus d'un Congolais que les maisons carcérales sont des lieux de rééducation pour les auteurs des faits répréhensibles par la législation congolaise. Mais nous constatons avec amertume que les maisons carcérales se transforment en un mouroir en RDC pour des multiples raisons, notamment la malnutrition, mauvaises installations sanitaires, conditions hygiéniques dégradables. En effet, cette situation nous pousse à conclure que la vie humaine n'est pas sacrée aux yeux des autorités congolaises, car si tel n'était pas le cas, elles allaient prendre les dispositions considérables nécessaires afin de bien entretenir les détenus, qui parmi eux, il y a des non-jugés, voire des innocents.
Mais l'auditeur a totalement raison. Lorsque vous voyez un ministre du gouvernement, qu'il soit provincial ou même central, se rendre à la prison, ce n'est pas pour visiter les cellules, c'est pour faire un spectacle au niveau de la direction, là où se trouve le directeur, un bureau climatisé, mais il ne sait pas accéder. Prenons par exemple pour les mamans, le pavillon 9 à la prison centrale dans la capitale, à Kinshasa, là. Pavillon 9 des mamans. Dans quelles conditions les femmes vivent là-bas? Ça, c'est un indice sérieux de manque de considération de nos compatriotes prisonniers par les autorités.
Richard Bondo, puisque vous en parliez, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes le tableau dans lequel vivent ces femmes prisonnières?
C'est la promiscuité, c'est les grossesses avec tout ce qu'il y a comme promiscuité, c'est les conditions hygiéniques exécrables, c'est lamentable. Ah. Est-ce que ces femmes pourront être resocialisées demain? Parce qu'aujourd'hui, depuis le 20e siècle, on parle de la défense sociale nouvelle, donc il faut resocialiser les détenus. Leur apprendre un métier, leur montrer comment, au sortir de la prison, ils peuvent s'adapter à la vie en société et cesser d'être des délinquants. Tout ça, on leur apprend rien.
Alors, Richard...
Il y a des grossesses là-bas et qui rendent ces femmes grosses en prison et ces enfants qui naissent en prison. Est-ce qu'ils seront demain? Et ici, on parle tout le temps, on a une nouvelle loi sur la protection des enfants, nous avons adhéré à la convention, ceci. Mais c'est vrai, nous avons adhéré. Sur le plan de texte, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces textes?
Richard Bondo, en guise de conclusion, est-ce que vous voyez un avenir meilleur pour les prisonniers du RDC?
Oui, moi je crois toujours que l'on doit espérer et croire à ce que Héraclite d'Éphèse a dit, si tu n'espères pas, tu ne rencontreras jamais l'inespéré.
Onésime nous dit, nous pensons, en un mot, votre conclusion.
Avec le changement, tout pourra être vécu comme un paradis ailleurs.
Onésime nous dit en quelques secondes, oui. Vous y croyez, un changement possible?
Oui, nous continuons à lutter, à nous battre, amener des plaidoyers au niveau national et international. Nous avons l'espoir que demain, les conditions carcérales pouvaient s'améliorer.
Monsieur le ministre Placide Mukendi, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir rapidement pour améliorer cette situation?
Oui, monsieur le journaliste, je pense que nous sommes en train de nous battre de manière à revoir à la hausse le budget alloué aux conditions de vie du Mali en général.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention. Willem Lungamba était la technique et merci pour votre attention.